France Culture, bienvenue à vous, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Nous commencerons une fois de plus ce journal avec la résurgence inquiétante de la pandémie qui conduit nombre de pays européens à durcir les mesures pour tenter d'en limiter la progression.
En France, les derniers chiffres montrent là aussi une augmentation globale du nombre de personnes admises en réanimation.
Et c'est dans ce contexte donc qu'Emmanuel Macron doit s'adresser ce soir aux Français pour leur annoncer vraisemblablement de nouvelles restrictions.
Le sujet est sur la table depuis plusieurs mois. Il avait été balayé par la crise sanitaire, mais il s'est ravivé ces derniers jours.
Oui, ou quand la multiplication récente des attaques contre des agents des forces de l'ordre jette une lumière crue sur des conditions d'exercice parfois difficiles. Cette nuit encore, un agent a été gravement blessé après avoir été renversé par une voiture lors d'un contrôle. Les syndicats de policiers sont reçus demain avec Emmanuel Macron. À l'étranger, le Liban et Israël, deux voisins officiellement toujours en guerre, ont engagé ce matin des pourparlers inédits sous l'égide de Washington pour délimiter leurs frontières maritimes. Enfin, alors que l'UE et le Royaume-Uni s'accusent mutuellement de bloquer les négociations commerciales post-Brexit. La présidente de la Commission européenne s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre britannique. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Mais en fait, c'était qui exactement Sartre? On va en parler avec notre invité, le philosophe François Nudelmann, qui signe chez Gallimard un tout autre Sartre, loin du Sartre de Simone de Beauvoir, loin du Sartre qui s'oppose à Camus, loin de son militantisme et de son engagement, encore que, quoique, on verra que cette autre vie, sa vie parallèle a aussi nourrit le reste. On en parle dans une vingtaine de minutes, donc avec notre invité François Nudelmann.
Entre adepte de la prudence sanitaire d'un côté et avocat d'une relance de l'activité économique de l'autre, comment harmoniser des consignes qui, à bien des égards, peuvent parfois sembler contradictoires? Quoi qu'il en soit, et face à une résurgence inquiétante de la pandémie, de plus en plus de pays européens, notamment, se voient contraints, malgré eux, de durcir les mesures pour tenter d'en limiter la progression. Alors c'est le cas notamment de la République tchèque qui, il y a quelques mois encore, donnait des leçons à toute l'Europe en prétendant avoir échappé au Covid-19 et qui, rattrapée à présent par l'épidémie, annonce désormais des mesures drastiques. Et puis idem aux Pays-Bas, devenus l'un des principaux foyers de contamination sur le vieux continent, eux qui jusque-là avaient promu une politique dite de confinement intelligent, comprenaient nettement moins strict que ses voisins, seront soumis, Élise Delève, à un confinement partiel à partir d'aujourd'hui.
Fini le confinement intelligent. Les Pays-Bas n'auront pas été plus intelligents que les autres. Depuis des mois, le pays tente de mettre en place une stratégie différente en refusant notamment de rendre le masque obligatoire. Mais l'explosion du nombre de cas force aujourd'hui le gouvernement à prendre des mesures. Cela va faire mal, prévient le Premier ministre Mark Rutte, mais c'est la seule solution. Un confinement partiel débute donc ce mercredi aux Pays-Bas. Fermeture des bars et des restaurants, interdiction de vendre de l'alcool après 20h, rassemblement de plus de 4 personnes dans un lieu public interdit et obligation de porter le masque en lieu clos. Ces mesures doivent durer un mois. Les Pays-Bas ont enregistré 44 000 cas en une semaine. Un record, c'est l'un des taux d'infection les plus élevés en Europe. Le pays est juste derrière la Belgique, qui vient d'instaurer un couvre-feu dans certaines provinces de 1h à 6h du matin, et derrière la République tchèque. Elle enregistre la hausse de contamination la plus rapide d'Europe, 398 cas pour 100 000 habitants. Nous n'avons droit qu'à un seul essai et il doit être couronné de succès, s'inquiète le Premier ministre Andrei Babis. Son gouvernement a été critiqué pour son manque de clarté tout au long de la crise et sa communication défaillante. Jusqu'au 3 novembre, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. L'école primaire doit être faite à distance. L'enseignement secondaire et les universités le font déjà depuis lundi. Depuis cette date, les cinémas, théâtres, musées et galeries sont également fermés.
Alors la France, bien entendu, n'échappe pas à ce tour de vis. Après les messages alarmistes distillés depuis plusieurs jours publiquement comme en privé sur le regain de l'épidémie qui menacerait de submerger le système de santé, Emmanuel Macron s'adressera ce soir aux Français, probablement pour annoncer lui aussi de nouvelles mesures contraignantes et dont la panoplie possible de restrictions à sa disposition qui peuvent aller du simple recours au télétravail jusqu'à un couvre-feu total dans les zones les plus frappées par le virus, en passant par la régulation des transports. Toute la question est désormais de savoir lesquels le chef de l'État retiendra-t-il. Mais pas seulement, car les Français ont probablement autant peur aujourd'hui pour leur santé que pour leur emploi. Et en ce sens, c'est donc aussi sur le terrain de la visibilité à moyen et à long terme que sera attendu ce soir le président, pour qui cette longue intervention sera la première depuis 3 mois sur la crise sanitaire. C'était le 14 juillet dernier. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et en attendant donc de connaître le cap fixé par le chef de l'État, à droite comme à gauche, Pierre, l'opposition n'a elle pas attendu pour distiller ses recommandations.
En effet, les élus de l'opposition se rejoignent sur le fond. Aujourd'hui, ils demandent à Emmanuel Macron plus de cohérence dans sa prise de décision, surtout s'il est amené ce soir à décider l'instauration de couvre-feu territorialisé, explique le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, sur Public Sénat.
Pour que les mesures soient acceptées, il faut de la lisibilité. Et donc, nous disons, la sphère privée, très bien. Alors si on en vient au couvre-feu, c'est un échec, mais néanmoins, il faudra en passer par là éventuellement pour protéger la santé des Français.
Mais concrètement, vous nous dites que ce n'est pas applicable au couvre-feu.
À condition qu'on ne laisse pas les transports dans cette situation, ou les lycées, ou les universités.
Attention aux conséquences sociales de nouvelles mesures contraignantes, prévient sur France Info ce matin Aurélien Pradier. Le secrétaire général des Républicains accuse le gouvernement d'une mauvaise gestion de la crise sanitaire.
Aujourd'hui, les décisions brutales qui risquent de devoir être prises, elles sont la conséquence du manque de stratégie de ce gouvernement. Dès lors qu'on est dans une situation sanitaire qui pousse à risquer la vie de nos concitoyens, je ne peux pas polémiquer. Je dis simplement aux Français, soyez lucides sur le fait que si nous en sommes là, c'est parce que ce gouvernement a été incapable d'être à la hauteur de la situation depuis plusieurs mois.
Un manque d'anticipation que souligne également le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel.
La raison d'être de ces deuxièmes mesures aurait pu être évitée. C'est quoi ? C'est parce qu'on pense que les hôpitaux ne supporteraient pas une deuxième vague. Et malheureusement, ça sera le cas. Depuis mars dernier, rien n'a été fait en termes de mesures d'urgence, de recrutement, de matériel, etc. On a continué la même politique.
On le voit, la parole du chef de l'État est attendue ce soir entre contraindre et convaincre. Il doit apporter des solutions sanitaires, sociales, économiques pour faire face à cette deuxième vague de l'épidémie, mais aussi répondre aux critiques sur la gestion de la crise depuis le mois de février. C'est un exercice de communication périlleux pour le chef de l'État s'il veut obtenir une large adhésion de la population.
Merci Pierre Neveu. Alors en attendant qu'Emmanuel Macron ne tranche donc sur les mesures d'urgence à prendre pour contrer au mieux cette deuxième vague, voilà qu'un premier rapport d'étape indépendant sur la manière dont l'exécutif a fait face jusqu'à présent à l'épidémie a été présenté hier. Arnaud Rozac, bonjour.
Bonjour Thomas.
Un rapport qui pointe, Arnaud, notamment, et sans surprise, le manque d'anticipation des autorités dans cette crise.
Oui, selon le comité, l'envolée du nombre de contaminations au Covid-19 est passée sous les radars. Le gouvernement s'est rendu compte de l'ampleur de l'épidémie quand les hôpitaux ont manqué de lits de réanimation. Ce retard à l'allumage s'est également ressenti sur la politique des tests. Les experts font le constat d'une lenteur dans leur déploiement à grande échelle, en comparaison d'un pays comme l'Allemagne. Le rapport souligne que la France a eu des difficultés pour intégrer les laboratoires privés dans sa stratégie. Le président du comité, l'infectiologue Didier Pitté de Genève, pointe les quiproquos autour des stocks de masques, mais aussi le manque d'organisation des systèmes de surveillance sanitaire. Il était l'invité hier soir de la RTS, la radio-télévision suisse.
Les agences n'ont pas toujours remonter au bon moment les bonnes informations, parce que parfois elles n'étaient pas là, parfois elles n'étaient pas capables de le faire, parfois il y avait des facteurs de confusion. Puis ensuite, il y a eu un début de demande et de pause de remède d'intervention qui n'ont pas toujours réussi à être finalement, comme on dit en mauvais français, implémentés aux bons endroits et au bon moment. Il y a une série d'éléments, évidemment, qu'on peut lister, mais globalement, la France se situe à un niveau intermédiaire par rapport aux pays que nous avons comparés, en termes notamment d'excès de mortalité au niveau de l'Europe.
Pour les experts, vu l'ampleur du choc, la France a su gérer les conséquences économiques de la crise de façon satisfaisante, grâce notamment au dispositif de chômage partiel. Autre bon point de cette gestion abordé hier en conférence de presse, le système hospitalier français a tenu, mais le professeur Pitté met en garde le gouvernement. Le personnel soignant a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter et la fatigue, le stress seront durs à dépasser face à une deuxième vague.
Merci Arnaud Rozac.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel. On en sait désormais un peu plus sur la prime à destination des enseignants annoncée l'hiver dernier.
Oui, le ministère de l'Éducation a présenté hier différentes hypothèses en vue de répartir les 400 millions d'euros prévus dans le budget 2021. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Autant le dire tout de suite, Hakim, les syndicats sont d'ores et déjà déçus sur cette mesure qui devrait surtout concerner les jeunes enseignants et donc assez faiblement le reste du corps professoral.
Et oui, pour l'instant, les hausses de salaire prévues par le ministère de l'Éducation vont surtout concerner les tout jeunes professeurs en tout début de carrière, c'est-à-dire ceux qui auront moins de 3 ans d'ancienneté. La hausse sera de 100 euros net par mois, y compris pour les contractuels et ceux qui travaillent dans les établissements privés sous contrat. Une prime qui interviendra à partir de mai 2021. Alors que ceux en milieu de carrière, en revanche, soit un bon quart des effectifs, ne toucheront que 7 euros de plus par mois, selon Sophie Vénétité, co-secrétaire nationale du SNES.
Dans la dernière hypothèse, on aurait une augmentation de 7 euros par mois pour les enseignants qui sont ce qu'on appelle au 8e échelon, c'est-à-dire ceux qui ont entre 35 et 38 ans, ce qui fait quand même un certain nombre de collègues. Et 7 euros par mois, on est quand même très loin d'une forme de revalorisation.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui n'aurait pas tranché avant début décembre, espère ainsi attirer plus de jeunes diplômés vers le métier d'enseignant. Il faut dire que ces dernières années, le nombre de postes non pourvus au concours n'a cessé d'augmenter, ce qui s'explique notamment par la masterisation. Avec un bac plus 5, les jeunes diplômés préfèrent s'orienter dans des métiers plus rémunérateurs, comme le numérique par exemple. Enfin, le ministère prévoit une augmentation de 45 euros par mois pour les directeurs d'école.
Merci Hakim Kasmi. Après que les syndicats de police ont été réunis hier soir par le ministre de l'Intérieur, qui leur a détaillé une série de mesures pour améliorer leurs conditions de travail, et avant d'être reçus demain par le président Emmanuel Macron pour évoquer cette fois-ci leur protection, voilà qu'on a appris cette nuit une nouvelle agression contre un agent des forces de l'ordre, un policier de la brigade anticriminalité qui intervenait sur le contrôle d'une voiture volée à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, a été renversé par le conducteur qui, en redémarrant, l'a percuté. Avant de prendre la fuite, le brigadier a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé et une enquête a été ouverte. Alors il se trouve que cet événement intervient bien entendu dans un contexte particulier, en l'occurrence après une série de violences, notamment l'attaque au mortier d'artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne le week-end dernier et l'agression par balle quelques jours plus tôt de deux policiers à Herblay. Je vous propose d'écouter le maire Europe Écologie Les Verts de Savigny-sur-Orge, là donc où a eu lieu l'agression cette nuit, Jean-Marc Défrémont, pour qui, si le sentiment d'impunité augmente aujourd'hui, c'est notamment en raison de la diminution des effectifs.
En Essonne, on a environ 150 policiers de moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Plus près de nous, on a une réforme des commissariats qui conduit à ce que certains commissariats, dont celui de Savigny-sur-Orge, deviennent des commissariats de secteur avec moins de forces de police présentes. Et puis certains, donc comme celui de Juvisy, regroupent davantage de forces de police. Sur le plan symbolique, lorsque vous avez un commissariat qui est tout près ou lorsque vous en avez un qui est à quelques kilomètres, le sentiment d'impunité des personnes qui commettent ces actes-là n'est pas le même. Nous avons besoin, je pense, de forces de police qui soient au plus près de la population et non pas regroupées administrativement dans des gros commissariats.
Voilà, Jean-Marc Défrémont, maire Europe Écologie Les Verts de Savigny-sur-Orge. Alors, je le disais, il se trouve qu'Emmanuel Macron doit recevoir, lui, demain, les représentants syndicaux de la police nationale. Et après toutes ces récentes agressions de fonctionnaires de police, mais aussi parce que cette rencontre à l'Élysée sera la toute première organisée depuis le début de son quinquennat, le chef de l'État se s'est attendu au tournant tant sur le plan de la symbolique que sur les mesures concrètes. À ce titre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lui d'ores et déjà annoncé hier à l'ensemble des organisations une batterie de mesures censées éteindre donc en partie les fortes revendications catégorielles qu'elle porte. 325 millions d'euros supplémentaires pour la police dans le dernier projet de loi de finances. Dans le détail, les crédits consacrés au matériel et aux équipements vont augmenter de 15 millions d'euros, ceux dédiés au parc automobile de 125 millions. Quant au budget immobilier, il va lui aussi augmenter de 12 millions. Enfin, les nuiteux, comprenez les quelques 22 000 policiers travaillant de nuit, vont toucher en moyenne 60 à 100 euros de plus par mois. Autant de mesures dont se félicite le secrétaire général du syndicat de police Synergie, officier Patrice Ribeiro.
Au-delà du discours du ministre qui a toujours soutenu les policiers, on a une traduction dans le budget. Que ce soit sur l'amélioration du quotidien des policiers, que ce soit sur la verticalité du discours, sur la réaffirmation de l'autorité de l'État, et puis également sur tout ce qui est l'aspect social des policiers, le statut, les conditions de travail, les conditions de vie. Oui, ce sont des gestes significatifs parce que au-delà du budget, on va dire conventionnel, on a une bonne partie du plan de relance qui est dédiée à l'amélioration des conditions de travail des policiers, notamment pour tout ce qui est visible, c'est-à-dire des véhicules. Vous aurez un véhicule sur quatre qui sera renouvelé d'ici la fin du quinquennat. vous avez des choses qui sont engagées sur l'amélioration de l'immobilier. Vous avez beaucoup de policiers qui travaillent dans des conditions qui sont très vétustes, pour pas dire dégueulasses. Et aujourd'hui, bah, tout ça peut constituer pour nous une bonne option d'améliorer les choses. Parce que quand vous travaillez dans des conditions pas toujours saines, vous avez des fuites dans les commissariats, vous avez des choses comme ça, et ben tout ça peut aujourd'hui se traduire par des travaux, des améliorations. Encore une fois, les policiers, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler au service de nos concitoyens. C'est pas pour leur confort, c'est vraiment pour pouvoir travailler, donner un meilleur service public à tous. Et le panel de propositions qui ont été proposées, qui ont été annoncées, eh bien, augure de bonnes choses. Encore une fois, que ce soit vraiment dans le matériel au quotidien pour les policiers, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des mesures juridiques de protection, tout ça va dans le bon sens en tout état de cause pour nous, parce qu'encore une fois, les policiers, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir travailler pour nos concitoyens et notamment les plus vulnérables.
Voilà, Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie, officier, joint au téléphone par Julien Langlais.
12h46 sur France Culture, c'est le journal de Thomas Cluzel. Après des années de diplomatie américaine, le Liban et Israël, officiellement toujours en guerre, ont entamé ce matin des négociations inédites pour délimiter leurs frontières maritimes.
Oui, des pourparlers techniques plus que politiques dans l'optique de lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures offshore. Alors notons tout d'abord que ces discussions interviennent déjà dans un contexte régional de forte tension, notamment en Méditerranée orientale, autour précisément de cette même question des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes. Par ailleurs, quelques semaines seulement après que des accords de normalisation ont été signés entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, à la Maison-Blanche, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la symbolique de ces développements pour l'administration Trump à l'approche de l'élection présidentielle. Enfin, ces discussions interviennent évidemment dans un contexte extrêmement particulier pour le Liban. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons tout de suite que cette séance inaugurale de pourparlers inédit a pris fin ce matin, au bout d'une heure. Ce qui est certain, Christian, c'est que ces discussions ne sont donc en rien des pourparlers de paix, même si forcément le règlement de ce contentieux, donc bilatéral, ne pourra pas faire l'économie d'un mécanisme de négociation directe ou indirecte.
Oui, côté libanais, on insiste sur l'aspect technique, non politique, de ces discussions pour délimiter la frontière maritime entre les deux pays. Il faut savoir que d'autres pourparlers sont menés séparément, cette fois-ci sur le tracé de la frontière terrestre, toujours sous l'égide des Nations Unies. Alors, pourquoi entamer ces négociations maintenant? Rappelons que les États-Unis poussent ce dossier depuis plus de 3 ans. Des émissaires américains font la navette entre le Liban et Israël. Aujourd'hui, le pays du Cèdre est en faillite sur tous les plans et ce n'est pas un hasard. Si c'est Nabi Berri, le président du Parlement, chef du parti chiite Amal, et surtout très proche des Américains, qui a annoncé le lancement de ces pourparlers, c'est une façon de s'attirer les bonnes grâces de Washington, qui a dans son collimateur le Hezbollah, l'autre grand parti chiite libanais. Pour Nabi Berri et les autres pôles du pouvoir à Beyrouth, ces négociations sont une manière de se relégitimer sur le plan international au moment où le rejet de la classe politique par les Libanais est à peu près total et vire presque à la haine. L'idée de la classe dirigeante libanaise est d'accélérer la prospection des hydrocarbures en Méditerranée. Un premier contrat a d'ailleurs été signé avec le consortium comprenant le français Total, l'italien Eni et le russe Novotek. Et forcément, la clarification des frontières maritimes avec Israël permettrait de lever un obstacle majeur à l'exploitation gazière, avec l'espoir de remplir les caisses de l'État libanais désespérément vides.
Merci Christian Chéneau. La voie la plus sûre vers la récompense résidera-t-elle dans un mélange de déclarations plausibles et de silences judicieux? Hier, lors de son audition devant le Sénat américain, la juge conservatrice Amy Coney Barrett, choisie par le président pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, se sera montrée étonnamment laconique sur nombre de sujets brûlants sur lesquels le temple du droit pourrait avoir à se prononcer. Rien sur l'avortement, pas plus que sur le mariage homosexuel ou bien encore l'Obamacare, cette loi emblématique de l'ex-président qui a donné une assurance médicale à des millions d'Américains. Tout juste, la magistrate a-t-elle juré tenir sa foi à l'écart de son travail de juge? C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Hier, l'Union européenne a obtenu de l'OMC le droit d'imposer des droits de douane punitifs sur près de 4 milliards de dollars de produits américains, et ce en représailles aux aides d'État illégales accordées à Boeing. Une décision qui intervient en réalité une année après que l'OMC eut autorisé les États-Unis, cette fois-ci, de taxer les produits européens dans un différent parallèle concernant des aides à Airbus. Reste désormais à l'Europe de décider quels produits américains pourraient être concernés et quand mettre ces droits de rétorsion en pratique. À la veille d'un sommet européen en partie consacré aux négociations commerciales post-Brexit, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit s'entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Un échange programmé à un moment critique puisque les deux parties s'accusent toujours mutuellement de laisser planer le risque d'un no deal potentiellement dévastateur pour leurs économies. Plus exactement, même si des progrès ont été enregistrés notamment sur les conditions de concurrence, la question de la pêche explosive pour une poignée d'États membres reste elle aujourd'hui totalement dans l'impasse. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. C'est donc dans ce contexte, ce matin, qu'Angélique, un projet de déclaration des 27 pays membres de l'UE a fuité, laissant entendre que pour eux, les progrès réalisés dans les discussions ne sont pas suffisants pour obtenir un accord.
On estime en effet ici que les discussions ont atteint un stade critique, hein, car nous sommes demain le 15 octobre et sur le papier, eh bien rappelez-vous, c'était le rendez-vous espéré par Londres, mais aussi par les 27 chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent en sommet à Bruxelles pour acter le futur accord commercial entre l'Union et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui deviendra clairement un pays tiers, hein, le 31 décembre prochain à minuit, c'est le Brexit économique. Mais malgré des négociations qui se sont clairement accélérées ces dernières semaines, le compte n'y est pas. Sur les trois points considérés majeurs, hein, côté européen, la pêche. Les Britanniques veulent récupérer l'accès à leurs zones de pêche qui sont très poissonneuses et ne font pas de concessions dans ces négociations, alors que les Européens veulent pouvoir continuer à y pêcher. C'est d'ailleurs un prérequis, hein, qu'ils avaient clairement affiché en échange de l'accès à leur marché intérieur, sans quotas ni droits de douane. Mais là-dessus, cela bloque. Les 27 attendaient aussi des garanties très fortes sur la qualité et les conditions de fabrication des produits que les Britanniques voudront importer ou continuer à importer dans l'Union, ainsi qu'un engagement à ce que leurs normes environnementales ne divergent pas trop des nôtres dans le temps. Là-dessus aussi, les propositions sont jugées insuffisantes. Enfin, le troisième point de friction porte sur le mécanisme qui réglera à l'avenir les éventuels litiges commerciaux. Les 27 le veulent d'autant plus robuste qu'ils ont vu récemment que Londres était capable de ne pas respecter sa signature, hein, sur le précédent accord négocié, l'accord de retrait. Sur ces sujets là, il n'y a donc pas d'avancée assez notable. Alors il n'est pas question non plus de cesser les négociations. Elles vont se poursuivre sans doute jusqu'à mi-novembre, hein, pour que le Parlement européen ait le temps de ratifier un éventuel accord de dernière minute et parce que les 27 ne veulent pas porter la responsabilité d'un échec. Mais le principe de réalité prime. Lors du sommet, hein, qui s'ouvre demain, les chefs d'État et de gouvernement européens devraient donc s'engager parallèlement à accélérer les préparatifs en vue d'une absence d'accord avec tout ce que cela implique pour les États et les entreprises, le retour immédiat, par exemple, des droits de douane sur tous les produits britanniques qui veulent entrer dans le marché commun. Les 27 qui annoncent d'ailleurs il y a quelques minutes aussi avoir adopté une législation avec une procédure écrite, hein, pour aller plus vite, visant à garantir la circulation dans le tunnel sous la Manche, hein, après le 1er janvier prochain.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Le chef du parti néo-nazi Aube Dorée, Nikos Mikhalkalios, négationniste et admirateur du national-socialisme, a été condamné ce matin à 13 années de prison ferme par la Cour pénale d'Athènes la semaine dernière. Je vous le rappelle, au terme de plus de 5 années de procédure, la justice avait jugé qu'Aube Dorée devait être considérée comme une organisation criminelle. Quand le son des obus se fait encore entendre depuis les montagnes du Nagorno-Karabakh, ignorant toujours la trêve humanitaire conclue le week-end dernier, séparatistes arméniens et armées azerbaïdjanaises continuent de s'affronter dans d'intenses combats tout en s'accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu. Une escalade guerrière qui souligne une fois de plus l'activisme d'Ankara d'un côté, rangé derrière Bakou, et la neutralité de façade de Moscou de l'autre, principal médiateur mais aussi principal fournisseur d'armes aux deux ennemis. Enfin, preuve à tout le moins que l'échange de 200 détenus contre 4 otages la semaine dernière au Mali n'aura pas suscité d'accalmie sur le terrain, voire que cette libération constitue surtout une victoire pour l'alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Hier, ce sont pas moins de 12 civils, dont 2 femmes et 1 enfant, et 11 militaires qui ont été tués dans une série d'attaques, soit le plus lourd bilan dans le pays depuis le putsch du 18 août dernier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, encore assez largement perturbé, même si des éclaircies parviendront à se développer autour du golfe du Lion, mais aussi plus au nord, des Pays de Loire à l'Alsace, partout ailleurs. Le ciel hésitera entre nuages et précipitations. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.